Bonjour et bienvenue sur Sortie de cadre, le podcast qui vous aide dans votre cheminement intérieur. Je suis Sarah et il y a 10 ans, j'ai entrepris un profond travail personnel qui m'a permis de complètement transformer ma vie. Depuis, je ne cesse de cheminer grâce à des techniques de développement personnel et spirituel. Je suis également coach et praticienne en EFT, en logosynthèse, TAT et bien d'autres techniques énergétiques. Un jeudi sur deux, vous retrouverez un nouvel épisode soit en solo, soit en interview. Merci d'avance pour votre fidèle écoute. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un projet, un désir quelconque et de voir ce projet ou ce désir complètement contrecarré par un blocage, ce qu'on appelle les auto-saboteurs. C'est de ce sujet que j'ai le plaisir d'aborder avec vous, avec Anne-Claire Froger, qui est psychologue clinicienne, dans cet épisode, pour un épisode interview, le tout premier de cette saison. Avec elle, on définit ce qu'est les auto-saboteurs, comment ils peuvent se manifester dans notre vie, quelles sont les solutions. Je vous laisse tout de suite le découvrir. Bonne écoute à vous. Bonjour Anne-Claire. Donc merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation pour cet épisode de podcast. Donc vous êtes psychologue clinicienne et coach. Moi, je vous ai connue via le livre « Le complexe de la tortue » que j'ai découvert début d'année, il n'y a pas si longtemps. Et j'ai eu l'impression, à travers ce livre, en tout cas en lisant les premiers chapitres, que vous racontiez un petit peu ma vie. Donc, ça m'a tout de suite parlé. Et puis après, je vous ai suivi à travers votre blog, parce que vous avez un blog qui s'appelle « Objectif Nouvelle Vie ». Et bah, sur lequel vous abordez notamment le thème de l'auto-sabotage, et c'est sur ce thème dont on va parler aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous ai invité aussi pour surtout montrer aux personnes qui vont nous écouter que des fois, si les portes se ferment, ce n'est pas parce qu'on manque de volonté, qu'on manque de courage, c'est que souvent il y a des blocages, et on parle beaucoup des blocages de l'inconscient, etc., des croyances, mais je trouve que c'est assez vaste, et votre livre et le thème de l'auto-sabotage aborde ça d'un autre angle, et on peut plus s'identifier en tout cas à quelque chose de plus précis. Du coup, ma première question, pour rappeler un petit peu aux auditeurs, parce qu'ils savent pas forcément ce que c'est, donc est-ce que vous pouvez me parler de ce que c'est vraiment un auto-sabotage et pour quelles raisons on s'auto-sabote?
Oui, bonjour Sarah, merci beaucoup pour cette invitation à laquelle j'ai répondu avec plaisir. Alors, pour effectivement, dans mon livre Le complexe de la tortue, j'aborde la question des autosabotages. Et un autosaboteur, c'est une partie inconsciente de soi qu'on héberge en soi à notre insu et qui œuvre contre nos désirs conscients. C'est-à-dire que consciemment, on peut avoir des projets, des désirs, des souhaits. On sait ce qui est bon pour nous. Et puis, il y a une partie invisible qui va s'opposer à ces désirs-là et mettre en œuvre différentes stratégies pour nous bloquer et pour nous maintenir paralysés, j'ai envie de dire, hein, immobiles, pour ne pas avancer dans cette direction. Et cette partie-là, on la connaît pas très très bien parce que du coup, justement, elle est un peu énigmatique. Excusez-moi, je suis un peu enrouée aujourd'hui. Et du coup, elle est nourrie principalement par des peurs et puis par une mauvaise estime de soi. Et du coup, ces peurs et cette mauvaise estime de soi vont amener donc nos auto-saboteurs à essayer pour en vérité, pour notre bien, pour nous protéger, parce qu'ils sont inquiets et ils voient, eux, ils parfois un danger dans le fait de réaliser ces projets et d'avancer vers ces rêves. Et du coup, pour essayer de nous protéger, nous maintiennent immobiles dans une zone de confort, mais qui, à long terme, finit par devenir paralysante, handicapante, et puis, elle peut être douloureuse, elle peut être souffrante.
Et du coup, vous avez parlé d'estime de soi. Et moi, ma question, c'était, est-ce que nous avons tous un auto-saboteur ou c'est vraiment lié à l'estime de soi? Parce que souvent, on a beau avoir une belle vie, etc. Enfin, il y a des personnes qui ont des belles vies, mais qui qui, à un moment donné, arrive à un plafond de verre comme ça. Est-ce que ça, c'est un auto-saboteur ou c'est plutôt une croyance ou quelque chose comme ça?
Je dirais que un auto-saboteur, c'est ce qui nous empêche de... Pardon. Un auto-saboteur, c'est ce qui nous empêche de d'épanouir tout un pan de notre personnalité. Donc ça dépend, je dirais que ça dépend du plafond de verre, mais si ce plafond de verre nous amène à nous sentir frustrés, un peu éteints et puis à moitié nous-mêmes, c'est-à-dire si ça empêche la réalisation d'une partie importante et vivante de soi, oui, c'est un auto-saboteur. Le fait que le manque d'estime de soi nourrit l'auto-sabotage, c'est lié au fait que l'auto-saboteur va empêcher de laisser entrer dans notre vie tout ce qu'on pense ne pas mériter. Donc du coup, vous voyez que si notre estime de soi est basse, on va penser ne pas mériter de trop belles choses, de trop belles surprises, de trop bons moments, trop de confort, trop de joie, trop de... inconsciemment évidemment. Et du coup, à ce moment-là, dès que quelque chose de trop beau va survenir, il va faire en sorte de le refaire sortir de notre vie. Soit que ça n'entre pas, soit que ça dure pas dans le temps. Et donc si, ça dépend évidemment ce qu'il y a dans ce plafond de verre, mais si on veut dépasser ce plafond de verre pour arriver à quelque chose de plus épanouissant, de plus heureux, de plus beau, de plus... Eh bien, à ce moment-là, si notre auto-saboteur a le sentiment qu'on ne le mérite pas, oui, il va empêcher que ça arrive. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner.
D'accord. En fait, par rapport à la blessure, on a souvent peur du rejet si on va au-delà de notre auto-saboteur. Est-ce que la peur derrière, finalement, ce serait pas au lieu de la peur, enfin, il y a aussi la peur de se faire rejeter, mais est-ce qu'il n'y aura pas la peur aussi de se faire humilier parce que derrière le masque de la blessure d'humiliation, il y a justement cette blessure, enfin, ce masque du masochiste qui a tendance un petit peu à se faire du mal à lui-même.
Oui, tout à fait. Effectivement, dans le fait de sortir de sa carapace, puisque du coup j'utilisais l'image de la tortue pour expliquer que on a tendance, du coup, quand on se sabote, à se replier dans sa carapace à l'abri, dans une zone familière qu'on connaît bien, qui est pas forcément épanouissante et dans laquelle on exprime tout son potentiel, mais au moins on est en sécurité dans cette carapace. Et la difficulté, c'est que quand on veut aller vers ses rêves, avancer dans sa vie, il faut sortir de cette carapace, sortir de cette zone de confort. Et à ce moment-là, on s'expose à l'extérieur, effectivement, au regard des autres et à des situations à l'extérieur qui peuvent venir atteindre notre confiance en nous et blesser à nouveau notre estime de nous. Donc oui, on peut s'exposer à la crainte du rejet, à des situations de rejet qu'on va revivre et qui vont réveiller des douleurs profondes. Donc on reste à l'abri pour se protéger. Et alors concernant l'humiliation, bien sûr, c'est tout à fait le cas aussi. On peut avoir vécu des blessures d'humiliation qui peuvent se répéter à partir du moment où on va sortir, s'exposer, etc. Et à essayer d'avancer vers soi-même. Parce qu'en réalité, avancer vers ce qui est épanouissant, vers ses rêves, c'est avancer vers soi-même. C'est aller vers soi.
Si vous avez simplement, je ne sais pas, un exemple de personne que vous avez reçue en consultation, qui arrive peut-être avec justement une difficulté à dépasser son auto-saboteur.
Bien sûr, il y a des... Il y a des auto-saboteurs qui peuvent se manifester dans tout ce qui concerne l'autonomie, c'est-à-dire l'envol, vous savez, quitter le nid. Donc du coup, il va y avoir des manifestations d'auto-saboteurs quand on a du mal à terminer ses études, par exemple, à valider son diplôme, à passer un examen qui donne, à passer son permis, mais tout ce qui donne de l'autonomie, c'est-à-dire qui conduit vers la vie adulte. Et ensuite, tout ce qui concerne la vie amoureuse. Donc pouvoir... rencontrer quelqu'un, construire un couple, construire une famille, avoir des enfants, ce sont des étapes symboliques en fait de la vie et de l'autonomisation. Quitter ses parents, prendre son propre appartement. Donc quand il y a des blocages à cet endroit-là et que on stagne pendant que les autres avancent, là ce sont des voilà, ce sont des manifestations d'auto-saboteurs. Donc oui, j'ai reçu à mon cabinet des personnes qui avaient ce type de difficulté-là et qui venait pas forcément consulter pour ça d'ailleurs au départ, mais ça pouvait être par exemple des troubles somatiques ou des difficultés diverses et variées, et puis très rapidement on arrive à tous ces enjeux-là en fait. Ça peut être j'ai construit ma vie, mais j'ai un parent Tu tombes malade ou mon père ou ma mère décède et je retourne habiter avec eux ou prendre soin d'eux ou je sacrifie une partie de ma vie pour aller prendre soin d'eux. Ça aussi, c'est la même chose. Et après, il y a tout ce qui concerne le fait de construire sa vie professionnelle, comme vous évoquiez tout à l'heure. Effectivement, ça, c'est un point très important, avoir son autonomie financière et puis s'épanouir. Même on peut avoir une autonomie financière, mais réduite et on n'arrive pas vraiment à développer son activité, on n'arrive pas à s'épanouir, on n'arrive pas à être heureux. Ou alors, on a un travail, mais qui est plus raisonnable ou alimentaire et on va avoir du mal à aller vers ses passions et à développer ses passions. Là aussi, c'est une manifestation d'auto-saboteur parce que c'est s'autoriser à se faire des cadeaux, c'est s'autoriser à aller vers ce qui nous fait vibrer, c'est s'autoriser à rayonner, parce que du coup, quand on s'épanouit, on rayonne, on dégage une énergie, c'est s'autoriser à prendre sa place. Vous voyez, on peut avoir l'auto-saboteur, il nous empêche. Alors là, pour des raisons de loyauté inconsciente qu'on n'a pas évoquées dans cette interview, mais qui agissent aussi, oui. Il nous empêche.
C'était justement ma prochaine question, donc voilà.
Voilà, donc on va l'aborder. Il nous empêche vraiment de prendre notre place pleine et entière et de rayonner pour pas faire de l'ombre autour de nous à d'autres personnes ou pas créer de tension dans les relations autour de nous. Et donc il va nous amener à rester un peu terne, vous voyez, à pas vraiment briller de toute sa lumière et de tout son éclat. Donc ça, ce sont des exemples, voilà, d'auto-sabotage de personnes qui viennent consulter pour ce type de raison-là.
Oui, et dans le livre, puisque vous prenez l'exemple finalement d'un film qui s'appelle All I Wish avec Sharon Stone, il y a justement ce lien en fait assez fusionnel avec la mère qui fait qu'en fait elle n'arrive pas à couper le cordon. C'est vraiment ce que moi j'ai ressenti. Il y a vraiment un lien de fusion qui fait qu'on n'arrive pas à couper le cordon et finalement à voler de ses propres ailes comme une personne adulte normale. Et ça me fait penser vraiment à l'image de l'amour oiseau qui pousse son vasillot hors du nid. Là, il n'y a pas eu ça en fait. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les loyautés inconscientes?
Oui, effectivement, ce que j'explique à travers l'exemple de Senna, donc le personnage principal du film, j'ai trouvé que cet exemple était intéressant parce qu'il illustre très bien les loyautés inconscientes. C'est-à-dire, les loyautés inconscientes, ce sont des liens invisibles qui nous retiennent prisonniers, en fait, et qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes, eh bien, par peur et par culpabilité. Par peur, parce que on peut avoir peur du fait que si on prend toute notre place, ça peut déstabiliser, blesser ou créer un conflit avec quelqu'un qui nous est proche, un parent souvent, ou qui ne va pas être d'accord avec ça. Alors, il peut très bien, la mère de Senna, si on lui pose la question, elle dirait tout à fait, mais si, bien sûr, ma fille réalise tes rêves. D'ailleurs, elle le dit dans le film, elle la critique, elle lui dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça pour réussir ta vie professionnelle. Mais au niveau inconscient, il y a un autre message qui est passé, qui est invisible et souterrain, qui est je veux que tu restes près de moi, j'ai besoin que tu restes près de moi. Et je ne t'autorise pas à grandir et à me quitter. Et du coup, les loyautés inconscientes vont agir de cette façon-là. On perçoit des non-dits et des demandes d'un parent qui nous demande de rester dépendant de lui, qui a besoin pour son propre équilibre que nous soyons dépendants de lui et qui du coup va nous empêcher inconsciemment évidemment de gagner notre autonomie en nous critiquant par exemple, en sabotant notre estime de nous ou en développant des peurs chez nous, en nous laissant penser qu'il y a des dangers à l'extérieur et qu'on va pas savoir y faire face, etc. Et donc du coup ces messages-là qui sont envoyés nous font comprendre qu'il faut rester, qu'il y a une partie qui doit rester enfant et dépendant. Et il y a aussi le fait que si on brave un peu cet interdit, ça va susciter des conflits avec ce parent-là. Il va se fâcher, il va exercer des représailles, il va nous critiquer, il va pas être content, il va faire comme s'il était blessé, se sentir blessé, nous culpabiliser, etc. Ça veut dire que pour pouvoir sortir de ces loyautés qui nous ligotent, il va falloir oser s'affirmer et il va falloir oser se redresser et entrer dans un conflit sain, un bon conflit, un conflit structurant, qui est l'affirmation de soi que les enfants développent. C'est la phase d'opposition de l'âge des 2 ans, c'est la phase d'adolescence, où on affirme son identité et on entre en conflit pour dire « mais moi, je suis pas forcément d'accord » ou « moi, j'ai envie de faire ça ». Et donc, ce sont des phases comme ça de développement de l'enfance qui se sont pas vraiment bien faites, qui n'ont pas pu aboutir et qui du coup se retrouvent bloquées à l'âge adulte et nous empêchent de nous autonomiser et de construire notre vie.
Oui, c'est comme si finalement on n'avait pas eu l'autorisation de grandir en fait.
Exactement. Et donc, il faut se la donner et s'autoriser maintenant qu'on est adulte à le faire.
Et ça peut aussi se transmettre via des parents qui eux-mêmes n'ont pas grandi, qui sont un peu des parents-enfants comme ça. Voilà, il peut y avoir plusieurs cas finalement dans cette transmission-là.
Bien sûr, c'est très souvent, effectivement, vous avez raison, des répétitions transgénérationnelles, c'est-à-dire que ça se répète de génération en génération. Et nos parents sont eux-mêmes ligotés à leurs propres parents, etc., et répètent ce type de lien avec la génération d'après. Donc, c'est une libération de toute la famille, finalement.
Oui.
Qu'on agit quand on s'autorise à se libérer de ces chaînes.
Quand on le comprend, bien évidemment, parce que souvent, c'est très souvent inconscient. Et ça se faisait beaucoup avant, maintenant la nouvelle génération, ça change beaucoup, tu es mon bâton de vieillesse, tu resteras avec moi, et c'est un petit peu ça. Et donc là, c'est en train de changer, mais avant, c'était totalement normal, en fait, de presque sacrifier sa vie pour son parent, en fait.
Absolument, absolument. C'était quelque chose de décrit comme évident, normal et attendu. Et donc, du coup, ça serait une trahison que de ne pas le faire. Et donc, c'est très important de pouvoir sortir de cette culpabilité et de cette forme d'obligation qui nous est transmise pour dire non, je t'aime, mais je ne vais pas sacrifier ma vie. J'ai besoin de vivre pour moi et ça sera bénéfique pour toi aussi. Tout ce qui est bon pour nous est bon pour les autres. Même si au premier abord, ça crée une petite crise, c'est une crise qui va être structurante et qui va ramener la vie dans la famille. Parce que sinon, toutes ces chaînes, toutes ces obligations tuent petit à petit la vie. Finalement, ils nécrosent un peu la famille.
Concernant la plus grande peur des personnes qui s'auto-sabotent, c'est la peur de briller. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette peur-là ?
Oui. Alors, je dirais que c'est un peu ce que je... Ça reprend en partie ce que je vous disais tout à l'heure. La peur de briller, elle est assez complexe. Elle est multifactorielle. C'est-à-dire qu'il y a une addition de facteurs qui renforcent cette peur. Il y a d'une part la question des loyautés inconscientes qu'on évoquait tout à l'heure. Plus je brille, plus je suis visible, plus je peux susciter des crispations autour de moi, c'est-à-dire de la jalousie, de la rivalité, de l'interdiction de prendre trop de place, etc. Donc il y a cette question des relations aux autres. Et puis il y a la question de la relation à moi, c'est-à-dire est-ce que je le vaux vraiment? Quelle est ma réelle valeur? Est-ce que je mérite vraiment de briller? Est-ce que je suis légitime à briller? Vous voyez, c'est la question du syndrome de l'imposteur. Est-ce que je peux me faire ce cadeau? Je dirais qu'on peut avoir peur aussi de sa propre lumière. C'est vraiment des... En vérité, j'ai pas encore complètement abouti cette question de la lumière. Je pense qu'elle est assez complexe, mais en tout cas, elle est animée par la question des loyautés et du fait que ça va créer des crispations dans les relations avec les autres et que ça crée un conflit à l'intérieur de soi par rapport à... Est-ce qu'on est légitime dans cette lumière-là? Après, je pense qu'il y a encore d'autres ramifications, mais pour l'instant, j'en suis là dans la recherche que j'ai fait.
Oui, ce qui me vient, c'est souvent on a peur en fait d'aller dans sa puissance parce que peut-être on a peur aussi d'être trop dans la position de celui qui va être au pouvoir, etc. Alors que pas du tout finalement.
Absolument, voilà. Merci Sarah. Tout à fait ça. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis dans ma puissance, j'incarne du masculin. Or, dans l'auto-sabotage et dans le complexe de la tortue, il y a vraiment une crise très grande avec le masculin. Il y a une rupture qui s'est faite avec le masculin, il y a besoin de se réconcilier avec son masculin et d'apaiser le masculin en soi, parce qu'on a souvent une image très négative du masculin comme dominateur, écrasant, violent, néfaste, etc. Et donc, du coup, on le rejette. Et effectivement, dans le fait de se libérer de ces autosabotages, il y a toute une partie à faire de travail sur soi qui va être de se réconcilier avec ce masculin pour retrouver sa capacité à se redresser, à s'affirmer, à prendre sa place, à pouvoir dire non et aussi à être dans sa puissance, comme vous dites tout à fait. Mais ça veut dire s'être réconcilié avec l'image qu'on a du masculin. Parce qu'évidemment, si on se dit « si je suis dans ma puissance, que je m'affirme, je deviens quelqu'un de violent, d'agressif, etc. ou d'irrespectueux vers les autres », on n'a pas envie. Mais si on rejette ce masculin, on ne peut pas s'affirmer, on ne peut pas prendre sa place, on ne peut pas aller vers ses rêves et être pleinement soi-même, et on va être dans un excès de féminin qui du coup nous affaiblit, nous maintient dans un marasme. Vous voyez, il y a quelque chose de marécageux quand il y a trop de maternel. Vous voyez, on est prisonnier du maternel. Voilà. Donc effectivement, c'est tout à fait ça. Merci.
Oui, il y a un manque de passage à l'action finalement. On reste dans le tout ce qui est. On a plein d'idées comme ça, mais on n'arrive pas à les manifester.
Oui, c'est ça. Et il y a quelque chose d'un petit peu marécageux, vous voyez. C'est pour ça qu'on peut être dans de la dépression, dans de la rumination, dans des doutes sur soi, dans une fatigue extrême. Voilà, effectivement, tout à fait, tout à fait.
Et du coup, donc vous avez déjà donné quelques réponses à travers tout ce qu'on a abordé précédemment. Mais donc, comment est-ce qu'on réussit à dépasser nos auto-saboteurs ? Donc déjà, je suppose en améliorant notre estime de nous-mêmes. Vous l'avez dit aussi en travaillant ce rapport au masculin. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire ?
Oui, tout à fait. Effectivement, numéro un, en travaillant son estime de soi, parce que du coup, ce que je pense ne pas mériter, mon auto-saboteur va se débrouiller pour ne pas le laisser entrer dans ma vie. Donc du coup, pour laisser entrer du bon dans sa vie, c'est nécessaire de penser qu'on le mérite et donc du coup, de pouvoir se donner de l'amour. Il faut travailler son amour de soi, la bienveillance envers soi-même, l'acceptation de ses imperfections, l'acceptation de son rythme, l'acceptation du décalage entre ce que je suis et ce que j'aimerais être. Donc c'est vraiment très important de s'aimer inconditionnellement, voyez, de s'aimer aujourd'hui. C'est pas je m'aimerai quand je serai comme ci ou comme ça. Non, c'est réussir à s'aimer aujourd'hui tel que l'on est, à reconnaître ses talents, ses qualités, et puis il faut aussi apaiser son rapport à la vie, c'est-à-dire pouvoir travailler sa gratitude, j'ai envie de dire. C'est-à-dire pouvoir voir tout ce qu'il y a de beau dans sa vie aujourd'hui, pouvoir voir... parce que souvent, on peut être pris dans des ruminations, dans des idées négatives, dans de la déprime, et du coup, voir surtout le verre à moitié vide. Et donc, un des axes, ça peut être aussi, bien sûr, de travailler le verre à moitié plein. Tout ce qui est déjà là, tout ce que j'ai déjà réussi, tout ce dont je suis fière dans ma vie, toutes les étapes que j'ai franchies, toutes les qualités que j'ai. Ensuite, bien sûr, il va y avoir le fait de s'affirmer, comme on disait tout à l'heure. Et donc, comme vous disiez, apprivoiser son masculin, se réconcilier avec son masculin, pouvoir avancer pas à pas. Je dirais que dans l'auto-sabotage, il peut y avoir aussi souvent le fait de... Il peut y avoir un effet yo-yo, c'est-à-dire on essaie de faire un grand pas en avant, qui est un peu grand. Du coup, soit on réussit pas aussi bien qu'on voudrait, on se fait des reproches, soit on fait quelque chose qui nous expose trop et du coup va réveiller des blessures d'humiliation, de rejet, de critique, voilà. Et donc du coup, on est à nouveau échaudé, on revient à l'abri de sa carapace. Donc vous voyez, il y a un effet yo-yo où on va essayer de s'affirmer et puis on va se sentir très coupable et hop, on revient en disant non, j'ai pas été sympa, on revient dans sa carapace. Donc il faut avancer à petits pas pour accepter son rythme et se fixer des petits objectifs progressifs, puisque du coup c'est en prenant confiance en soi qu'ensuite on va pouvoir faire des plus grands pas. Parce que souvent on est impatient, ça arrive qu'on soit impatient et qu'on veuille progresser vite parce que on n'aime pas sa vie, on rejette une partie de sa vie. Donc non, beaucoup de bienveillance et d'amour envers la vie qu'on a aujourd'hui. accepter ses freins, accepter ses limitations, accepter ses auto-saboteurs, et puis se fixer des petits objectifs et avoir le courage. Il faut du courage, hein. Là on retrouve le masculin, avoir le courage de s'y confronter, de se confronter à l'inconnu, de se confronter à ce que je maîtrise pas bien. Donc quand je sors de ma carapace, je fais des petits pas progressifs pour prendre confiance en moi. Si on prend l'exemple, par exemple, de ma fille qui apprend à faire du vélo sans roulette, eh bien, elle a très peur de faire sans roulette parce qu'elle maîtrise pas bien. On accepte son rythme sans forcer, sans dire mais les autres vont plus vite, etc. Peu importe les autres. Et ne pas se comparer aux autres, mais se dire je prends mon temps. Quand je me sens prête, j'enlève mes roulettes. Je fais un petit peu je me fais peur. Je reviens en arrière, je remets mes roulettes, je recommence, voyez. Et puis, s'encourager, il faut vraiment être extrêmement bienveillant avec soi quand on fait ses pas vers l'extérieur, s'encourager, ne pas se critiquer. Et puis, alors, il y a des tas de choses à faire, évidemment, c'est difficile à résumer comme ça, mais il va y avoir une petite voix critique qui va vous dire « t'as pas fait assez bien » et « regarde », et il va vous comparer aux autres, etc. Et donc, vraiment, travailler à avoir d'autres voix, parents, construire un parent intérieur bienveillant qui va venir s'opposer à cette voix, vous soutenir en disant « mais non, regarde, regarde, c'est très bien, prends ton temps, c'est déjà très bien ce que tu as fait, on recommencera demain, tu vas y arriver, je crois en toi, n'aie pas peur ». C'est aussi une voix qui va vous pousser quand on a envie de rester replié chez soi parce qu'on a trop peur d'ici. Il faut que tu y ailles un petit peu, pas trop fort, pas trop vite pour pas te faire mal, mais un petit peu, t'en es capable. Donc, travailler sur ton parent intérieur, travailler la gratitude, travailler l'estime de soi, et puis s'affirmer et oser sortir de sa zone de confort, petit à petit, à petits pas.
Oui, j'aime bien cette idée de petits pas, parce que moi, c'est un jour, c'est ce que j'avais fait. Pour donner mon exemple, je devais partir à Londres toute seule et ça me terrifiait. Et j'avais fait toute une liste avec toutes les étapes. Mais vraiment toutes les étapes, c'est-à-dire mettre mon réveil le matin, prendre mon bus, aller jusqu'à la gare, prendre le train. Et je m'étais dit, voilà, t'as toutes les étapes. Si t'en fais qu'une, c'est pas grave, au moins t'auras fait un petit pas. Et à chaque fois, ça m'encourageait à aller de l'avant en avant. Et finalement, j'ai réussi à faire le voyage comme ça. Mais je m'étais dit, voilà, là t'as la gare, donc prochaine étape. Donc si t'arrives pas, c'est pas grave, tu retournes. Et ça pousse, en fait, ça aide à aller de l'avant.
Exactement, parce que du coup, si on regarde l'objectif final, il paraît très effrayant, mais quand on le décompose en toute petite séquence, eh bien, ça donne du courage, on se dit « ça, je peux le faire ». On retrouve une zone de maîtrise un petit peu. « Ça, je peux le faire ». Et ce qui est très important dans ce que vous dites, c'est « si j'y arrive pas, c'est pas grave, j'essaye ». J'ai le droit de revenir en arrière si c'est trop difficile. Très, très important. Pouvoir revenir en arrière, recommencer.
De se donner le droit de se tromper et de ne pas y arriver.
Quand j'y pense, je pense à autre chose. Dans le travail sur ces auto-saboteurs, c'est très important de célébrer ses victoires. Mmh. Et donc, du coup, vraiment, parce que souvent, on passe beaucoup de temps à relever ce qu'on a raté ou ce qu'on a mal fait ou pas suffisamment bien fait. Et c'est très important de prendre du temps pour célébrer ses victoires. J'ai réussi ça, je suis très fière.
Alors, ça va peut-être rejoindre la question précédente, mais bon, quels sont les trois conseils que vous donneriez à des personnes qui découvrent aujourd'hui avec cet épisode qu'elles entrent dans ce mécanisme d'auto-sabotage? Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil?
Je dirais, dans un premier temps, ça va
revenir... Lire le livre, déjà, ça va peut-être les aider. Souvent, ça va m'aider.
Oui, tout à fait. Oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit. Effectivement, j'ai été très surprise en me disant « je me suis vraiment énormément reconnue dans Sena. Je veux savoir comment faire pour sortir de mes auto-saboteurs. » Et donc, moi, je dirais, pour sortir de ces auto-saboteurs, il faut apprendre à se faire plaisir. Ça paraît un peu, peut-être un peu surprenant, mais on voit bien dans le film que Sena, elle apprend beaucoup à se sacrifier et à renoncer à ses rêves. Et c'est très important d'apprendre à se faire plaisir, c'est-à-dire à prendre soin de soi, en fait. C'est-à-dire à penser qu'on est important. Se faire plaisir, c'est penser qu'on est important, qu'on en vaut la peine, qu'on le mérite, que notre bien-être compte, a de la valeur. Et c'est le centre de... Ça va être le centre du travail sur soi, c'est-à-dire... Notre bien-être a de la valeur et il faut que j'y investisse. Je mérite d'investir, de m'investir là-dedans, de m'investir en moi-même, de me faire ce cadeau d'aller vers moi-même. Donc, écouter ce qui nous fait envie et oser le faire. Ça peut être tout simplement, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, je me l'autorise pas. Si j'apprends à écouter mes besoins et à y répondre. J'ai envie de me faire un petit cadeau, mais c'est pas raisonnable, j'en ai pas vraiment besoin, etc. Je me fais plaisir. Donc ça, c'est la première chose, c'est écouter, se faire plaisir, oser écouter ses besoins, se reconnecter en fait avec ses besoins. Parce que souvent, le mental est très présent, il nous coupe. Il va nous dire « tu dois, il faut », etc. Et donc, il y a vraiment besoin de retourner vers son corps, vers son cœur, vers ses émotions, et sentir ce dont on a besoin et y répondre. La deuxième chose, moi j'ai envie de conseiller d'apprendre progressivement à identifier ses peurs. C'est-à-dire quand je me sabote, c'est toujours parce qu'il y a une peur au fond de moi. C'est important d'aller petit à petit identifier cette peur, apprendre à la connaître, l'accepter, comme on disait tout à l'heure, l'accepter en soi. Parce que plus on rejette, finalement, moins on la connaît. Puisque du coup, on la laisse pas s'approcher. Donc l'accepter, c'est l'autoriser à être là, la laisser s'approcher, devenir presque une amie et la comprendre. À partir de ce moment-là, elle va se dénouer. Plus on l'accepte, plus on accepte les choses douloureuses dans la vie, plus elle se dénoue tout doucement. Ce qui renforce les obstacles, la dureté, la souffrance, la tristesse, c'est notre réaction de protection qui fait qu'on va la rejeter. On se ferme et on rejette à l'extérieur tout ce qui est douloureux. Et du coup, ça, paradoxalement, ça va renforcer ces douleurs. Donc, plus on va pouvoir réouvrir la porte, les accepter, les accueillir avec bienveillance, plus ça va se dissoudre un petit peu comme un nœud va se détendre et on va pouvoir le défaire progressivement. Et puis après, le troisième conseil, moi j'inviterais vraiment beaucoup à lire. Tout le monde peut-être n'aime pas lire du développement personnel, mais le fait de lire, ça permet de s'ouvrir à des nouvelles façons de voir les choses. Je pense qu'il faut s'ouvrir à une spiritualité quand on est dans des auto-sabotages et qu'on est souvent envahi et dominé par des pensées négatives sur soi et sur le monde. Parce que du coup, on a souffert, on s'est protégé et on appréhende des événements négatifs, vous voyez, où on appréhende l'échec, où on appréhende d'autres blessures. Et du coup, il y a vraiment besoin d'aller comprendre le sens de ces épreuves dans notre vie. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on est confronté à ces difficultés-là, à ces blocages-là, à ces souffrances-là, et le fait d'avoir des lectures qui nous ouvrent au sens de ces épreuves, au sens de la vie, et comment se réconcilier avec soi-même et retrouver une confiance en la vie et retrouver du sens à tout ce qui arrive, et bien ça permet c'est le même mouvement que d'aller à l'extérieur physiquement, mais en esprit. Ça permet de s'ouvrir et de développer un amour de soi, une confiance en la vie. Donc moi j'invite beaucoup à trouver certaines lectures qui vont développer cette paix intérieure, en fait. Voilà, ça permet de trouver une paix intérieure qui permet de voir les événements différemment, d'y réagir différemment et de trouver des ressources en soi. Quand on comprend le sens de ce qui nous arrive, ça donne un socle, une assise, et on n'est plus pris dans ces marécages un petit peu mouvants où on ne sait plus si on doit aller à droite, à gauche, où on est perdu.
Et j'inviterais aussi des personnes aussi peut-être à aller consulter quand si elles se retrouvent toutes seules et avec ça et qu'elles savent pas comment faire, si ça peut énormément aider.
Bien sûr, tout à fait. C'est beaucoup plus long et difficile d'essayer de travailler sur soi tout seul. Et on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. Donc évidemment, n'hésitez pas à aller consulter un thérapeute, un professionnel qui saura vous aider à travailler là-dessus. Le fait d'avoir déjà identifié que vous avez un auto-sabotage, comme vous disiez, c'est déjà 50% du chemin de fait, parce que vous savez ce que vous avez à travailler. Et ensuite, il faut trouver comment le travailler. Et se faire aider, ça, c'est un atout très important. Il ne faut pas se priver de ça. Là aussi, c'est un cadeau, vous voyez. On peut être tenté de se dire « non, mais je vais le faire par moi-même », etc. Oui, mais pourquoi se priver d'une aide précieuse? Parce que dans l'auto-sabotage, c'est quand même beaucoup une question de relation affective, hein, de relation d'amour de soi et de se sentir aimé par les autres. Et quand on travaille avec un thérapeute, c'est ça qu'il apporte avant toute chose, c'est que il apporte sa bienveillance et son amour et son non-jugement et son éclairage. C'est un guide, C'est une figure parentale, un thérapeute. Et donc, du coup, il va réparer les blessures qu'on a pu avoir. Et donc, c'est très important d'oser faire confiance à quelqu'un, parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui consultent pas parce que elles ont peur, au fond, d'être déçues ou de répéter une trahison ou de répéter une blessure avec un thérapeute. Mais ça fait partie du chemin, en fait. Pour pouvoir guérir, il faut aller à la rencontre de ces blessures, il faut ne pas avoir peur qu'elles reviennent et pour pouvoir les guérir. C'est-à-dire qu'une blessure qu'on garde enfouie au fond de soi, c'est un petit peu comme un abcès qu'on a. On peut garder le pansement et pas vouloir y aller, mais ça va continuer à s'envenimer. Il faut avoir le courage d'aller enlever ce pansement, d'aller un petit peu nettoyer la plaie, même si c'est un peu douloureux, pour que ça puisse bien cicatriser en profondeur. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est la même chose. Donc, il faut, à un moment donné, trouver ce courage en soi et cette confiance en la vie, dans le fait d'aller voir un thérapeute et de se dire, je vais trouver quelqu'un de bien qui va pouvoir m'aider.
Oui, j'aime beaucoup ce que vous dites parce que finalement, c'est l'idée d'aller voir un thérapeute, c'est aussi entrer dans une nouvelle relation en fait. Comme il y a ce problème de parents-enfants à l'origine, c'est reconstruire une nouvelle relation avec quelqu'un qui lui va pouvoir nous poser un cadre et va pouvoir nous aider aussi à passer à l'action parce que justement, comme on a ce problème du masculin qu'on n'arrive pas à passer à l'action, ça va être compliqué de le faire tout seul en fait. Et j'en profite pour tout doucement clôturer l'interview pour vous parler de vos ateliers sur les autosabotages qui peuvent aussi aider. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Enfin, parce que moi, je fais partie de ces ateliers, mais on n'en est qu'au début. Donc, ça peut aussi aider les personnes qui peuvent nous entendre.
Oui, merci beaucoup d'en parler, Sarah, tout à fait. Et bien, suite à l'écriture du livre, du coup, j'ai reçu pas mal de messages, comme je vous disais tout à l'heure, de personnes qui me disaient « je me suis vraiment reconnue, mais maintenant, comment je fais pour sortir de mes sabotages ?» Et quand j'exerçais à mon cabinet à Lyon, j'avais déjà commencé des ateliers en groupe et j'aimais beaucoup, c'était pas sur les autosabotages, hein, c'était sur les émotions plus généralement, et j'aimais beaucoup ce travail de groupe, en petit groupe, et du coup je voulais les remettre en place, donc j'ai créé des ateliers cette fois-ci en ligne. J'en ferai aussi en présentiel prochainement, mais pour l'instant c'est en ligne. Et dans lesquels on travaille sur les autosabotages, alors progressivement, en apprenant d'une part à identifier ces autosaboteurs, en apprenant aussi à comprendre un petit peu le conflit à l'intérieur de soi entre la partie de soi qui veut s'épanouir, c'est-à-dire qu'est-ce qui demande à briller, qu'est-ce qui demande à s'épanouir en soi et qu'est-ce qui vient faire obstacle et pourquoi. Donc on commence par éclairer un petit peu ce conflit à l'intérieur de soi, à accueillir ce conflit sans le juger, sans chercher à le changer. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut d'abord accueillir ce qui est là. Et puis voilà, on aborde la question de l'estime de soi, on aborde la question des loyautés inconscientes, on abordera aussi la question des ombres en soi, c'est-à-dire ce qu'on rejette en soi, ce qu'on juge négativement en soi ou chez les autres, et qui du coup contribue à nous entraver. Parce que du coup, tout ce qu'on rejette éteint un petit peu notre lumière. Donc, c'est vraiment un travail de réconciliation profond avec soi. Et pour cela, donc, du coup, dans les ateliers, j'essaie que ce soit un petit peu ludique. Et je trouve que les cartes sont vraiment un support intéressant pour faire ça. Et du coup, je propose pas mal d'exercices où on utilise notamment des cartes, donc des oracles, des tarots, des choses comme ça. Il n'y a pas besoin du tout de connaître les tarots, les oracles pour pouvoir participer aux ateliers. On peut être débutant à ne rien y connaître, puisqu'on va travailler simplement avec l'image qu'il y a sur la carte, ce qu'elle nous renvoie, ce qu'elle nous évoque, et comment elle va parler de nos blocages. Et on va travailler un petit peu sur ce qu'on voit sur cette carte et ce qu'elle nous révèle de nos émotions bloquées, de nos peurs, de nos désirs, etc., de notre lumière. Et voilà, donc ça se fait en petits groupes, ça a lieu tous les 15 jours, durant 6 sessions, voilà. Bon, pour l'instant, il y a un niveau 1, ensuite j'ai un projet de faire un niveau 2 pour aller plus loin. Voilà, c'est une atmosphère qui se veut bienveillante et...
Tout à fait, pour être dans les ateliers et avoir seulement eu les deux premières sessions, ça bouge beaucoup déjà. Donc, on va vraiment faire un travail de profondeur. Donc, il reste encore des ateliers à voir. Et je conseille vraiment, en tout cas, pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin. On arrive vraiment à la fin. Est-ce que vous auriez un mot, quelque chose à dire pour clôturer cette interview?
Moi, j'ai envie de dire, si vous vous reconnaissez dans tout ce qu'on a abordé par rapport aux autosabotages, je vous invite vraiment à oser aller vers vous, à oser entreprendre un travail sur vous par rapport à ces autosabotages et à ne pas le repousser. Parce qu'on est souvent tenté de repousser parce qu'on a un petit peu peur, parce que le mental, il va trouver plein d'excuses en fait pour nous freiner. Mais c'est très important d'aller vers vous et de vous faire ce cadeau. Moi, j'ai vraiment envie de dire ça. C'est tout le monde mérite d'être heureux, d'être épanoui, et tout le monde a la capacité de le faire. Donc, ne vous laissez pas détourner par votre mental qui va vous laisser penser qu'il y a des choses plus importantes à faire, que ça va être trop compliqué, que ça va être trop douloureux, trop difficile. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous allez avancer à votre rythme et vous allez voir à quel point ça va vous faire du bien, à quel point vous allez être fiers de vous, de cheminer, et à quel point ça va vous libérer. Il est possible que vous ayez des poids un peu sur les épaules. Il n'y a pas de raison de les porter plus longtemps. Et songez bien au fait que chaque poids dont vous vous libérez, dont vous vous allégez, contribue à alléger vos proches, votre famille, vos enfants, vos parents et les générations futures. Donc, faites-vous ce cadeau et pensez que vous le méritez. La lumière est là. Il y a une lumière qui est là et c'est possible de l'atteindre.
Tout le monde en a besoin, je pense.
Le monde en a besoin, absolument. Le monde en a besoin, tout à fait. Tout à fait. Et on est beaucoup écrasé par du pessimisme ou un peu une perte d'espoir ou une perte d'énergie en disant on est tout petit face aux difficultés. Mais en fait, non, chacun apporte sa pierre à l'édifice et le monde a besoin de ces belles énergies qu'il y a en chacun de vous.
Ben merci Anne-Claire en tout cas pour cet échange et ce que vous nous avez apporté. En tout cas, je mettrai le lien vers votre livre, votre blog et les ressources que j'ai trouvées. Donc merci encore et à très bientôt en tout cas.
Merci beaucoup Sarah, merci beaucoup pour cette interview.